C'est une nouvelle semaine en votre compagnie à s'apprivoiser les uns les autres. Vous avez entendu cette nouvelle émission sur France Inter ? Chacun sa route s'enveloppe avec vous dans la torpeur de l'été qui commence doucement à prendre ses aises. Où êtes-vous en ce moment ? Je suis toujours intriguée de vous imaginer. Ce que l'on va faire ensemble ce lundi, c'est que l'on va remonter la piste de plusieurs origines. D'abord, on va s'incruster dans une fouille archéologique sur la trace des Mayas. Si vous êtes un amoureux des fouilles, si cela vous interpelle, si cela vous pose question, si vous brûlez d'en savoir davantage sur les Mayas, le standard est ouvert et vos témoignages les bienvenus. 01 45 24 7000 et le mot-clé chacun sa route sur les réseaux sociaux. Et puis à partir de 14h, celui qui est en quête de ses origines, c'est l'une des figures de la haute couture en France, Olivier Roustin nous racontera son étonnant parcours et son ailleurs à lui. À 14h30, l'un de vos témoignages à vous, un moment en voyage, ce sera le récit aujourd'hui de Laetitia en Tunisie. À 14h50, le premier épisode de notre exploratrice de la semaine. Elle s'appelle Nelly Bly et vous l'entendrez, sa vie est assez épatante. Il est fin prêt pour se fondre dans le décor maya qui nous attend. Clément Nouguier réalise cette émission. À la technique, aujourd'hui, Maxime Ingrand.
Chacun sa route. Élodie Font sur France Inter.
Ça a marché. Il faut attendre longtemps.
La réponse devrait être immédiate. On envoie la sonde radar dans le sol et l'ossement nous répercute l'image. Répercute l'image. Le nouveau programme est incroyable. Ça continue dans quelques années, on n'aura même plus besoin de creuser. Où sera le plaisir, alors ?
Des vestiges mayas cachés au fond de la jungle du Guatemala, c'est ce qu'a découvert une équipe internationale de chercheurs.
Grâce à une technologie laser qui permet de voir à travers la végétation, ils ont mis au jour une cité construite il y a plus de 1000 ans.
Superbe !
Bonjour Philippe Nonedeo.
Bonjour.
Je vous sentais très concentré en écoutant ces petits sons.
Oui, oui, j'essayais de me remémorer toutes les chaînes, toutes les radios qui avaient diffusé cette information qui a fait beaucoup de bruit. C'était en septembre 2018, si je ne me trompe pas.
Quelle information alors ? Racontez-nous.
Eh bien, c'était en fait une sacrée découverte pour pas mal de scientifiques dont je fais partie, où l'on a utilisé donc la technologie LIDAR en zone Maya dans un secteur assez important puisque c'était plus de 2000 km² et dans lequel on a découvert toute une série non pas de cités mais de vestiges Maya qui renouvellent assez profondément nos connaissances à la fois sur l'habitat, sur l'organisation et également sur l'exploitation du milieu.
Vous allez nous raconter tout ça en haletant. Philippe Nonedeo, vous êtes chargé de recherche au laboratoire CNRS en archéologie des Amériques et vous dirigez le programme de fouilles Nachtoun au Guatemala. Emmenez-nous avec vous là-bas. À quoi ressemblent ces fouilles archéologiques ?
Alors il faut imaginer qu'on est donc dans une atmosphère de forêt tropicale relativement dense. On est dans une réserve de biosphère. Donc pratiquement pas d'occupation humaine dans un rayon, on va dire, de pratiquement 50 km. J'exagère un petit peu, une trentaine de kilomètres, ce qui est quand même pas mal pour l'Amérique centrale maintenant. Et on est donc dans une petite base vie, à peu près, suivant les années, entre 50 et 80 personnes, disons une vingtaine de chercheurs et étudiants, et puis une trentaine, quarantaine d'ouvriers. Et on travaille pendant 2 mois, complètement isolés, avec juste un petit ravitaillement tous les 2-3 jours par un pick-up qui nous amène de la nourriture depuis la ville qui se trouve à peu près, on ne parle pas en kilomètres, on parle en heures de trajet, c'est-à-dire environ 11 heures de pick-up.
11 heures de pick-up, oui. Pour vous amener à manger ?
Oui, c'est ça.
Ah oui, vous êtes vraiment, vraiment oui. Au milieu de nulle part.
Oui, c'est ça, disons, l'intérêt aussi de ce site, c'est que les difficultés d'accès ont fait que peu de projets ont eu l'audace d'essayer de mettre en place un travail de recherche et toute une infrastructure pour permettre de fouiller dans cette zone-là.
Et c'est la forêt ou autour de nous il y a des montagnes ? À quoi ça ressemble quand on lève un peu la tête ?
Alors, on est dans une zone de basse terre maya, c'est-à-dire que vous avez en fait une alternance de petites collines qui font quelques 50-60 mètres d'altitude. En gros, on est à 350 mètres d'altitude pour les les collines les plus hautes. Et puis ensuite, vous avez des dépressions entre chaque colline qui peuvent descendre à 250 mètres et d'altitude et qui vont constituer en fait des espèces de zones marécageuses où l'eau va se stocker à la saison des pluies. Alors, il faut savoir qu'on est dans une région karstique, donc vous n'avez pas de fleuve, pas de rivière, et vous avez donc une filtration de l'eau de pluie à travers donc des réseaux souterrains et des galeries, des rivières souterraines qui se constituent, mais à très grande profondeur.
C'est beau, ça vous a procuré une émotion la première fois que vous êtes allé sur place?
Oui. Oui, une grosse émotion parce que c'est la première fois qu'on allait fouiller un site aussi important. Vraiment, c'est un site assez monumental dans le sens où le cœur de la cité fait environ 1,5 km de long par 600 mètres de large. Vous avez plusieurs milliers de structures, environ 1200, 1300 structures qui sont uniquement dans ce qui serait la cité intramuros. Et lorsqu'on a affaire à des pyramides qui font plus de 30 mètres de haut, des ensembles résidentiels, des palais, des jeux de balles, etc., on se rend compte en fait de la puissance des élites dirigeantes et notamment de la dynastie qui se trouvait à la tête de la cité.
On va en parler. Mais qu'est-ce qui fait que sur un site on se dit ici on va fouiller? Quels sont les indices qui montrent qu'il faut creuser à cet endroit-là?
Alors d'abord il faut quand même organiser une prévisite de la cité. Pour comprendre un petit peu son organisation spatiale et à partir de ces éléments-là, définir à la fois une stratégie de fouille et puis des objectifs de recherche. Qu'est-ce que l'on veut savoir? Qu'est-ce que l'on veut comprendre? Et une fois qu'on a défini ces objectifs, à ce moment-là, on adapte une stratégie de fouille avec des lieux, des secteurs que l'on va prioriser pour la recherche.
Mais là, en l'occurrence, le chantier dont vous parlez, la première fois où une équipe s'est dit « on y va, on va à cet endroit-là », c'était quoi le déclic? C'était qu'on voyait déjà, il y avait déjà des monuments que l'on apercevait, que l'on voyait, ou est-ce que tout était souterrain, ou est-ce que il y a des choses que...
Alors, il faut savoir, et bon, on va en parler certainement tout à l'heure, vis-à-vis du Lidar et de la porte du Lidar en zone Maya, mais...
Oui, on va parler du Lidar, oui, juste après, parce que je pense mais, que plein de gens ne savent pas ce que c'est le Lidar.
Ce qu'il faut dire, c'est que toutes les grandes cités Maya de la période classique sont déjà connues. On n'a pas eu besoin de faire appel à des technologies très avancées pour avoir déjà, en gros, les 90 ou 95% des grandes cités. Tout simplement parce que, à la fin du 19e siècle, à peu près vers 1890 et jusque dans les années 1930, vous aviez donc des compagnies nord-américaines qui exploitaient ce qu'on appelle le chiclé, c'est-à-dire la gomme à mastiquer qui était à la base du chewing-gum à l'époque, puisque c'était encore des résines naturelles. Ce chiclé provenait d'un arbre qui s'appelait le sapoté, et les paysans mayas étaient envoyés dans toute la péninsule du Yucatan et dans toute l'ère maya à la recherche de ces arbres pour exploiter cette gomme à mastiquer. Et donc ces paysans-là, qui vont arpenter toute l'ère maya, vont petit à petit découvrir des sites, et comme ces compagnies américaines d'exploitation du chiclé étaient en lien avec les archéologues. Ensuite, les archéologues utilisaient à la saison sèche où le chiclé n'était pas forcément exploitable, ils utilisaient ces paysans mayas comme guides pour aller visiter les grands sites que ces derniers avaient trouvés.
C'est vrai que la fiction, on va parler donc de la technologie LIDAR, c'est vrai que la fiction nous amène à penser que quand on est archéologue, on a un outil, on a plusieurs outils et que on va enlever de la terre et trouver des vestiges du passé. En l'occurrence, ce n'est plus exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui. La technologie LIDAR, expliquez-nous, ça consiste en quoi?
Alors, ce qu'il faut d'abord préciser avant de parler de cette technologie, c'est que les grands projets Maya se focalisent surtout sur le cœur des cités, sur les zones monumentales et les résidences qui sont attenantes. Et donc, on a un périmètre qui est quand même assez réduit dans lequel les projets se exploitent les informations et essaient de reconstituer l'histoire de la cité, son organisation, etc. En revanche, toutes les zones qui étaient au-delà de ce cœur des cités étaient des zones qui étaient beaucoup moins bien perçues, des zones qui étaient beaucoup plus difficiles d'accès, qui nécessitaient beaucoup plus de temps, de travail, d'efforts, d'énergie et donc d'argent. Et si vous voulez, l'avènement de cette technologie LIDAR, qui nous permet d'avoir une espèce de cartographie de l'habitat sur des kilomètres carrés, c'est-à-dire bien au-delà des zones qui étaient jusque-là réservées à l'étude des cités, nous permet d'avoir une information qui est...
Beaucoup plus étendue.
Bien, beaucoup plus étendue.
Et précise.
Beaucoup plus précise, beaucoup plus profonde, et qui permet de contextualiser ce que l'on savait du cœur des cités, en incluant maintenant ce qu'on appelle les arrière-pays, les zones, en allemand on parle d'Interland, c'est-à-dire toutes les zones, les territoires de subsistance de ces cités.
Mais concrètement, la technologie LIDAR, si j'ai bien compris, vous allez me dire si j'ai bien compris, ça consiste à équiper un petit boîtier sous un appareil comme un drone, un hélicoptère, et à voler au-dessus, et en volant au-dessus de la zone, l'appareil va bombarder avec ce boîtier, avec des points, le sol, et ça va nous donner comme ça une carte du sol. C'est ça ou je l'explique extrêmement mal?
En gros, c'est ça. Donc, vous avez un petit boîtier, donc qu'on appelle le LIDAR, qui est fixé sous le...
Ah, c'est le boîtier qu'on appelle comme
ouais,
ça, en
c'est
fait.
Ça. Ouais. Qui, c'est un tout petit appareil qui est fixé sous le ventre d'un petit avion. Et donc, l'avion va faire des passages aller-retour parallèles qui vont être géoréférencés, c'est-à-dire avec des mesures précises du déplacement de l'avion. Et ce boîtier, sur une zone à peu près de 250-300 mètres de large, va bombarder d'impulsions laser le sol. Donc, et c'est des choses monstrueuses, puisque l'appareil va bombarder des centaines de milliers de points par seconde. Et ces points, donc ces petites impulsions lumineuses, vont frapper soit le sol, soit un rocher, soit une branche, une feuille, de l'eau, de la terre, un vestige archéologique. Et une fois la percussion faite, le point va retourner jusqu'à l'appareil et l'appareil va calculer la durée entre l'émission et la réception. Et à partir de cette durée-là, va calculer l'altitude et la position exacte de ce point. Donc on obtient à la fin un nuage de points qui pourra comporter des milliards de points qui vont chacun être associés et qui vont être
dessiner une carte.
Montés les uns avec les autres, avec des programmes d'algorithmes, etc. Et ensuite, obtenir un modèle numérique de terrain.
Et ça veut dire qu'on fouille plus jamais avec une pelle ?
Si, parce que ça, c'est le préalable. C'est-à-dire, ça vous permet de dresser une carte. Une carte, puisque... Si on se rappelle ce qu'on a dit au début, on a donc une forêt tropicale qui est très dense. Donc là, le LIDAR va retirer la végétation et va se concentrer uniquement sur ce qu'on appelle le sursol. C'est-à-dire tous les vestiges, toutes les caractéristiques, la topographie de la surface du sol. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir faire une cartographie de tous les vestiges que vous allez pouvoir identifier. Ça, c'est l'étape 1. Et ensuite, l'étape 2, c'est aller sur le terrain, vérifier si les vestiges que vous avez identifiés sont bien des vestiges qui existent. Ils sont bien des vestiges, comme on dit, anthropiques, c'est-à-dire créés par l'homme. Et ensuite, commencer un travail d'analyse, d'étude, de fouille de ces vestiges, puisque le LIDAR ne suffit pas en lui-même. Il permet de comprendre des choses, de voir des organisations, des configurations. Mais après, on a besoin de travailler.
De travailler. Philippe Nondédéo est notre invité, notre premier invité dans Chacun sa route. 01 45 24 7000 si vous avez des questions ou des témoignages. Le mot-clé, c'est Chacun sa route sur les réseaux sociaux. Jeanne Haddad, Off My Back sur France Inter.
Devenir un bon archéologue. Il faut que vous sortiez de la bibliothèque.
France Inter, chacun sa route.
Not enough, I'll do as I please. But one night he told me. take some authority back. What am I waiting for? Say, aren't you hungry?
Suivez-moi, Philippe Nondedeo. Vous qui êtes chargé de recherche au laboratoire CNRS en archéologie des Amériques, nous sommes chez les Mayas. Imaginons, on remonte en arrière, on remonte dans le temps. Si on se téléportait, vous et moi, à cette période, quel est le premier détail que vous chercheriez à confirmer? Quelque chose que vous aimeriez tout de suite connaître?
Oh là, ça c'est une vaste question. Je crois que l'une des questions peut-être les plus importantes serait peut-être comment les échanges s'organisaient. Est-ce que, comme on le suppose, les grandes places centrales que l'on considère comme étant réservées aux grandes cérémonies, aux grands rituels, étaient par exemple des lieux où on échangeait les produits, comme ce serait le cas plus tard au post-classique chez les Aztèques. Vous voyez, ce sont des petits détails comme ça, comment s'organiser la vie à la cour par exemple, comment s'organiser le travail des champs, puisqu'il y a plusieurs...
On a aucune idée de comment ça s'organisait, le travail des champs, puisque, alors Maya déjà, non. Ça veut dire maïs. Maya, les Mayas en l'occurrence mangeaient et cultivaient beaucoup de maïs. Oui. Ça on le sait.
Oui, bah, le maïs était la céréale de base de la civilisation maya et qui joue un rôle central même du point de vue de l'idéologie, puisque la divinité du maïs c'est l'une des divinités les plus importantes de la civilisation maya. Mais par exemple, est-ce que on avait des parcelles agricoles qui étaient attenantes aux résidences, ou bien est-ce que les gens allaient à plusieurs kilomètres cultiver leur maïs? Est-ce qu'ils avaient ce qu'on appelle une double résidence, c'est-à-dire à la fois une résidence en ville avec une petite lopin de terre juste à côté de la résidence, ou bien est-ce qu'ils avaient une petite cahute, sommairement construite à quelques kilomètres, attenante aux champs, mais cette fois-ci des parcelles de terre, mais de plus grandes surfaces. Vous voyez, ce genre de questions qui taraude un petit peu la communauté scientifique et qui
et on ouvre... a une chance de le découvrir. Mine de rien, on a déjà découvert tellement de choses sur les Mayas que est-ce que l'on a une chance de savoir un jour comment ils interagissaient ensemble?
Oui, moi je pense que oui.
Ah oui?
Je pense que oui. Et pour revenir au point précédent, oui, grâce au LIDAR, je pense qu'on a maintenant des configurations, des organisations à grande échelle qui nous permettent de mettre en place des hypothèses de fonctionnement, d'organisation, des productions dont on ne disposait pas jusqu'à présent en termes d'organisation, de côté pratique, etc.
Et qu'est-ce qui pourrait, par exemple, nous raconter comment ils communiquaient entre eux? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver qui nous raconterait ça?
Je pense que la distribution des espaces entre espaces cultivés et espaces résidentiels, la configuration des vestiges agraires que l'on peut trouver sur des kilomètres et des kilomètres, puisque maintenant on sait qu'on a des systèmes de terrasses sur des kilomètres. Nous, par exemple, à Nachtoun, on a identifié, que je vous dise pas de bêtises, environ 800 kilomètres linéaires de terrasses sur une zone de 135 km², donc qui nous raconte la manière dont le paysage est exploité, et mais quand même de manière assez intensive. On a également des systèmes de canaux, on a plus de 300 km linéaires de canaux qui ont été identifiés. Bref, toute une série d'éléments qui nous montrent que le paysage maya était fortement anthropisé, bien plus qu'on ne le pensait, et ça grâce aux avancées LIDAR.
Ils avaient quoi comme ressemblance avec nous, les Mayas? Ou nous, d'ailleurs, plutôt avec eux.
Physiquement, vous voulez dire ou,
non, dans ou... leur manière de fonctionner, de ce que l'on sait, en tout cas. Enfin, c'est... physiquement aussi, si vous voulez. Hein.
Si c'est le nous actuel, oui. on s'est quand même fortement éloigné des Mayas, qui étaient des grands observateurs à la fois de la vie, de la nature, du ciel, des astres, pour calculer, pour comprendre, pour voir les grands événements astronomiques, par exemple, et qui allaient régler la vie des Mayas, et notamment tout ce qui va être calendrier agraire, etc.
Oui, ils avaient plusieurs calendriers, les Mayas.
Oui, donc ça, ce sont des choses que nous, on perd petit à petit à travers notre vie de plus en plus urbaine et déconnectée de la nature.
Philippe Nondedeo, vous restez avec nous, bien sûr. Je vous présente Armel Auger. Bonjour Armel.
Bonjour.
Vous travaillez pour le magazine Oui Demain, et ce lundi, c'est vous qui nous délivrez un regard sur le monde et sur la planète.
Ce pâté de campagne, le pur merveilleux regard.
Chacun sa route. Sur France Inter.
La campagne, justement. Est-ce qu'on installe la ville à la campagne ou est-ce qu'on installe la campagne à la ville, Armel Auger?
Alors, bientôt les vacances, Elodie?
Pas vraiment.
Mais bon. Les vacances qui, pour la majorité d'entre nous, se déroulent dans notre douce France cette année. Et pour beaucoup, à la campagne. Ah, les petits chemins qui sentent la noisette, l'odeur du foin, mais rien que du bonheur. Des vacances sans retour pour certains. Et oui, courage, fuyons la ville, tous au vert. Les sociologues l'affirment, les agents immobiliers, chiffres à l'appui, le confirment. Un véritable exode urbain est annoncé dès la rentrée. Les villes de grande solitude n'ont plus la côte. 2 mois après le déconfinement, à Paris, mais pas que, 3 citadins sur 4, en manque d'air pur, de calme et de chlorophylle, ne veulent plus survivre entre béton et bitume. Alors les démographes qui prévoyaient que 2 terriens sur 3 vivraient en ville en 2050 ont peut-être tout faux. Countryside the Future, mon anglais est peut-être pas fluide, mais bon, titre l'exposition,
on a compris.
Événement qui se tient actuellement au Guggenheim de New York. Alors les fermes, les granges, les écoles désaffectées, tout ce qui se situe au vert s'arrache, même et surtout au fin fond du Cantal, en Creuse, en Haute-Loire, dans ces lieux dits où l'on disait il y a peu que tout est mort, comme l'écrit avec une petite revanche la romancière Cécile Coulon, évoquant son tout petit village auvergnat. En quête de sens, les urbains veulent changer de vie, d'autant que la fée numérique leur permet de télétravailler hors des murs de l'entreprise. Alors il y a un problème. Aspirant à une qualité de vie estampillée 100% nature, les futurs néo-ruraux ne sont peut-être pas pour autant tous prêts à jeter aux orties leur ex-mode de vie. Pour ces extra-urbains, comme les nomme le sociologue Jean Viard, projetés comme bucoliques et tellement authentiques, la vie au champ doit être moderne. On doit pouvoir circuler, le tracteur qui se traîne sur la route c'est pas top, et se connecter partout et tout le temps. Évidemment, l'environnement doit être parfaitement sain, pas question d'avoir les yeux qui piquent pour cause de proximité avec des épandages. Il doit être éthique, avec des voisins qui cultivent bio, et pas des pollueurs empoisonneurs, entre guillemets, de l'agriculture intensive. Tout doit être sous contrôle et bien propre. Silencieux aussi, impensable d'être réveillé à 3h du matin par le passage de la moissonneuse ou le dimanche par le chant du coq. Et ça doit sentir bon, la noisette et pas le fumier. Bref, pour paraphraser Alphonse Allais, ce qui est formidable, c'est d'installer la ville à la campagne. Second problème, cette campagne urbanisée n'est pas du tout celle des indigènes, entre guillemets, qui ne voient pas toujours, et c'est un euphémisme galant, l'arrivée des citadins comme une bonne nouvelle. Entre les ruraux et ceux qui viennent de la ville, cela risque d'être de plus en plus souvent l'amour vache. De moins en moins nombreux, ils étaient 1 million en 1988, ils sont à peine 450 000 aujourd'hui, ces rats des champs se sentent en effet souvent dépossédés autant de leur terre que de leur identité, parler à des villes qui ne supportent pas les bruits et odeurs de la campagne, prétexte à un nombre assez effarant de procès. À tel point qu'une loi sur le patrimoine sensoriel a été votée en janvier dernier pour protéger chants du coq, sons de cloche, coassement des grenouilles, odeurs de fumier et même, avec une autre loi, les aksang. Excédés, certains maires des petites communes affichent déjà à l'entrée de leur village pancartes précisant les spécificités du lieu et panneaux indiquant le planning de l'activité agricole et font signer une charte de bon voisinage. À bon entendeur, salut. Qui dit exode urbain, dit campagne qui s'urbanise et se gentrifie. Inflation du prix du mètre carré, bouchons sur les petites routes départementales, empreinte carbone à la hausse et à bas bruit, un passage du vert au gris. Voiture éradiquée, avec le bruit et la pollution du coup, mise au vert de rigueur de l'espace, a contrario, les villes, elles, se naturalisent. Avec des permis donnés pour végétaliser rues, immeubles, courettes, trottoirs, 54 hectares entre la Tour Eiffel et Trocadéro en 2024, et développement de l'agriculture urbaine. Dans la capitale, c'est Audrey Pulvar qui en est chargée. Le processus est en effet déjà lancé à Paris, avec prévu en 2022, sur le toit du parc des expositions, l'inauguration d'une ferme urbaine de 14 000 mètres carrés, pouvant produire une tonne de fruits et légumes par jour, c'est pas rien. Abeilles sur les hauteurs du Grand Palais, moutons qui pèsent dans le parc de la Courneuve, les familles de petits renards au Père-Lachaise, les animaux pourront alors, comme ils l'ont déjà commencé pendant le confinement, investir la ville. Alors pour vous, Élodie, ce sera ville à la campagne ou campagne à la ville ? Alors
moi, j'ai la chance d'avoir les deux parce que je viens de la campagne. J'embrasse la Mayenne d'ailleurs et j'habite en ville, donc je peux aller à la campagne quand je veux. J'ai cette chance. Et Philippe Nondedeo, est-ce que les Mayas, ils vivaient plutôt en ville ou plutôt à la campagne ? Ils étaient plutôt urbains ou
C'est un petit peu les deux.
Un peu les deux ?
Oui, ce sont ce qu'on appelle des villes agraires.
Donc, mixer les deux.
Oui, c'est-à-dire que le champ est dans la ville et la ville est en fait au milieu des champs. Donc
il y a les avantages des deux.
Il y a
très moderne conception.
Oui.
Philippe Nondedeo est notre invité. 01 45 24 7000 pour lui poser toutes vos questions. Le mot-clé, c'est chacun sa route sur les réseaux sociaux. Cyril, les gens, c'est son dernier single sorti en 2020. Donc il n'y a pas longtemps.
Michel, les gens, l'heure de pointe, les gens.
Philippe Nondédéo est notre invité, chargé de recherche au CNRS, dans le laboratoire Archéologie des Amériques, et on parle avec lui Maya, et on parle aussi avec lui de la technologie qui nous permet de mieux les comprendre aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Yann. Bonjour Yann.
Bonjour.
Votre question?
Alors, je suis monté en marche dans l'émission, donc j'ai peut-être pas compris comment le lidar arrive à faire abstraction du couvert végétal, c'est-à-dire de la végétation qui peut justement recouvrir les zones à topographier, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, comment est-ce qu'il arrive justement à
effacer,
que ça
quoi.
Soit perturbant.
Comment on arrive à effacer la végétation pour mieux voir en dessous?
Alors, c'est une très bonne question et c'est justement la particularité du lidar. Le lidar, en fait, va enregistrer tous les points, quels que soient les impacts, que ce soit, comme je disais, troncs, feuilles, etc. En revanche, ensuite, il faut que vous fassiez un traitement. Lorsque vous avez votre nuage de points, donc qui va être composé de centaines de millions, voire de milliards de points, en ce qui nous concerne, nous, on avait 66 milliards de points. Ensuite, vous allez utiliser des logiciels qui vont vous permettre de classer ces points, c'est-à-dire de séparer ce qui va être tout ce qui va être couche de végétation, de ce qui va être point du sursol. Et à ce moment-là, une fois que vous avez identifié les deux sources de points, vous retirez la couche de points qui correspond à la végétation et vous ne gardez que le sursol qui va vous permettre de constituer votre modèle numérique à partir duquel vous allez ensuite travailler sur votre image.
C'est une technologie qui est apparue quand, le LIDAR ?
Elle est apparue. Alors, comme toujours, c'est une technologie militaire. Et ensuite, qui petit à petit se démocratise, passe dans le domaine civil. Et en archéologie maya, c'est une technologie qui a commencé réellement dans les années 2000, disons entre 2000 et 2010, avec un premier projet qui s'appelle donc le site de Caracol au Belize, qui a commencé à utiliser cette technologie et à l'adapter réellement aux pratiques archéologiques pour la zone maya. Et ensuite, petit à petit, c'est une technique qui s'est démocratisée 2012, 2013, 2014 et qui a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années, depuis 2016, 2017, et qui maintenant devient pratiquement comme une espèce de d'outil indispensable, de préalable à tout projet archéologique.
Donc vous avez vraiment vu, vous, l'évolution en l'occurrence?
Oui. Oui, parce que nous, on a commencé sur ce site suivant des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire qu'on faisait des prospections, des relevés au sol, avec donc deux équipes d'archéologues, trois ouvriers qui arpentaient le site, qui ont fait un quadrillage géant, donc des carrés de 100 mètres de côté par brèche. Et comme ça, pendant 6 ans, on a couvert 2,5 km² dans lequel on a trouvé à peu près 600-700 structures qui ont été enregistrées. Et avec le LIDAR, du jour au lendemain, on est passé à plus de 135 km² et pour plus de 13 500 vestiges. C'est-à-dire qu'on a pratiquement multiplié par 70 notre couverture en un minimum de temps.
Nous sommes aussi en ligne avec Jean. Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Votre question pour Philippe Nondédéo.
Pourquoi la civilisation maya s'est soudainement effondrée?
Alors là, c'est une vaste question et on pourrait consacrer une émission à cette question, mais d'une part, elle ne s'est pas soudainement effondrée. L'effondrement est quelque chose qui a pris plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'il commence les prémices, disons, de l'effondrement sont situées aux environs de 700, et c'est un phénomène qui va durer jusqu'aux environs de 950 000 après Jésus-Christ. Et là, on a plusieurs facteurs qui sont invoqués et qui vont en fait changer suivant les régions. Mais bon, vous avez une organisation politique qui est à bout de souffle. C'est l'organisation de la période classique qu'on appelle la royauté sacrée, où le pouvoir du roi est contesté. Alors peut-être que des gens vont faire des parallèles avec notre situation actuelle, mais le roi est contesté, vous avez des vassaux qui commencent à prendre de plus en plus d'importance, des nobles qui prennent des charges qui autrefois étaient dévolues au roi, vous avez des problèmes aussi d'exploitation du milieu, de surpopulation, vous avez les grands problèmes de sécheresse qui commencent à apparaître aux environs de 760, 810, c'est-à-dire tous les 50 ans, vous avez un épisode de sécheresse qui va durer de 3 à 9 ans, et qui va mettre à mal cette civilisation essentiellement agraire, dans laquelle vous n'avez pratiquement pas de culture irriguée, Donc tout ce qui va faire croître votre maïs viendra de l'eau de pluie. Donc si vous avez un dérèglement climatique, vous avez des répercussions immédiates sur les populations, des famines, etc. Même si les Mayas avaient quelques réserves, mais de là à être autosuffisant pendant 8 à 9 ans, ça c'est pas possible.
Vous, Philippe Nondedeo, vous nous disiez là à l'instant que parfois on pouvait faire des parallèles avec le présent quand on regarde le passé. Vous qui étudiez justement depuis des années le passé, est-ce que cela rend philosophe,
je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que parfois, dans notre propre société, on est en train de prendre des chemins et des tendances qui semblent inéluctables et dont les aboutissements nous semblent parfois connus à travers ce qu'on peut lire des sociétés anciennes. Et par exemple, la surexploitation à outrance de notre milieu, de notre environnement, et qui va aboutir à ce que tout le monde redoute, on a l'impression que par moment, les Mayas avaient ses propres problèmes et qui ensuite ont entraîné pas une disparition, mais en tout cas une réorganisation de la société pour faire face à de nouveaux enjeux et de nouveaux problèmes et une façon différente de gérer son milieu et de vivre avec.
On peut se réorganiser, quoi, c'est ça. On peut toujours se réorganiser, c'est ça le mot qu'il faut qu'on ait en tête.
Oui, ce serait une question de volonté et de...
Oui, c'est beaucoup déjà. Oui. Merci Philippe Nondedeo, merci beaucoup d'être venu passer cette première partie de Chacun sa route. Dans quelques minutes, un parcours particulier, un voyage, ce sera celui d'Olivier Rousteing.